Vendredi Théâtre sur Divergence FM, le 93.9, le générique qui nous accompagne depuis 3 saisons. Il s'agit d'un extrait de Roméo et Juliette de Prokofiev avec Andriy Gavrilov au piano. Eh bien, je suis avec une partie de l'équipe de Vendredi Théâtre. Tito vient de nous rejoindre. Bonjour Tito, l'inénarrable. Bonjour. Tito. Et le fringant Christopher qui va nous accompagner aussi pour cette matinée.
Bonjour.
Un premier spectacle que vous avez vu, les enfants, que moi je n'ai pas encore vu. C'est un spectacle qui s'appelle Le Siphon, ça se passe à Jean-Villard. Et j'ai le plaisir, le bonheur et l'avantage de recevoir, je vais essayer de ne pas écorcher votre nom, Ximum Fuchs.
Et bonjour.
C'est à peu près ça.
À peu près.
Bonjour, alors Le Siphon, de quoi s'agit-il? Est-ce que vous pourriez un petit peu nous situer le cadre de qu'est-ce que c'est que ce siphon?
Le siphon, c'est une pièce de théâtre qu'on a créée en février il y a un an. Donc on a joué 50 fois depuis. C'est une création, on dit quoi, une première mondiale? C'est une commande d'écriture, en fait. C'est le deuxième spectacle qu'on travaille avec un auteur qui s'appelle Aurélien Rousseau, qui est très connu parce qu'il a travaillé qu'avec nous. Et... qui est un camarade d'aventure, on va dire, un copain qu'on a rencontré sur la route, sur un des festivals, qui était un président de festival de Saint-Jean-de-la-Blaquière, pas très très loin d'ici, à côté de l'Odève, qui est un personnage qu'on aime beaucoup, qui a une belle écriture, une belle plume, et qui accepte d'écrire pour nous, de nous faire un costume sur mesure. Alors évidemment, nous, ce qui nous intéressait dans son écriture, c'est que justement, il avait une écriture qui était assez éloignée de notre langage quotidien, parce qu'il y a une plume particulière, et de frotter cette écriture-là avec notre façon à nous de prendre les choses à bras-le-corps, on trouvait qu'il pouvait se passer quelque chose d'intéressant. C'est quoi Le Siphon? C'est un polar. Il y a plusieurs entrées sur ce spectacle-là. On peut dire que c'est un polar parce qu'on s'est inspiré de ça, pour la petite genèse, parce que tous les spectacles ont une petite histoire. Moi, je suis parti en Birmanie en 2008, j'ai travaillé avec Clowns sans frontières et on a monté un spectacle en birman. Je ne parlais pas le birman à l'époque, pas beaucoup plus aujourd'hui, mais un petit peu. Et on a monté un spectacle avec des birmans pour jouer pour des gamins qui étaient en prison, qui avaient l'âge des miens, qui avaient entre 2 et 8 ans. Je suis ressorti de là passablement secoué, dans tous les sens, en parlant avec l'équipe, parce qu'on est beaucoup en tournée, on fait 80-100 représentations à l'année, et donc on se retrouve souvent au comptoir. On peut dire aussi qu'on est une troupe de comptoir, une troupe itinérante, mais aussi de comptoir, forcément, et on a des discussions de comptoir, ça va pas beaucoup plus loin que ça, mais on a eu envie de parler du coup de la relativité de la violence. En gros, dis-moi ce qui est violent pour toi, je te dirai qui tu es. Et à partir de là, on découlait tout un tas de formes, de possibles. On a commencé à travailler sur des faits divers pour voir comment nous, on pouvait s'approprier cette violence-là, qu'est-ce qui nous perturbait, qu'est-ce qui nous dérangeait, et de se poser certaines questions. On a appelé Aurélien, on lui a dit voilà sur quoi on travaille, il nous a dit vaste programme. Et il a commencé à travailler, à écrire, à nous faire des propositions qu'on a essayées, qu'il a changées. Voilà. Il a écrit au fur et à mesure. Alors, il n'a pas écrit ce que nous on improvisait à partir de la matière où on a travaillé à partir de la matière qu'ils nous proposaient, et les choses se sont rejointes à un moment donné pour aller jusqu'à loin, mais ça je vais pas dire où.
Alors Tito, Christopher, donc vous êtes retourné assez content du spectacle, je vous ai vu hier, c'était plutôt heureux. Oui. Qui veut commencer?
Oui.
Christopher, vas-y.
Beaucoup de choses pour ce spectacle qui dure 2h15. Déjà, je vais commencer par le commencement. Quand on arrive, quand on s'installe au théâtre, on est frappé par l'ampleur de la scène quand même. Mmh. J'imagine que ça a dû être un sacré travail de monter tout ça. Mmh. Et au début, donc, on s'attend, qu'est-ce que ça va être, ce drap, et on découvre cette ambiance du métro. Et je voudrais du coup parler des sensations que j'ai eues. Un vrai plaisir, on descend dans le métro, on descend aux enfers, et paradoxalement j'ai l'impression que cette pièce me donne une vraie bouffée d'air frais. Peut-être est-ce que ce paradoxe s'est voulu, il y a une place à l'humour aussi qu'on retrouve chez certains personnages, alors que parfois il y a une ambiance plutôt glauque, hein, je dois le dire. Et je me demandais, voilà la question que je me posais, il y a un effet métro, Et parfois, j'ai l'impression que cet effet métro peut anesthésier une certaine émotion dans certaines histoires que vous racontez. Je ne sais pas si c'est un effet voulu ou si c'est moi qui le vois comme ça.
C'est compliqué parce qu'on recherche rarement un effet extrêmement précis sur le spectateur. Le spectateur, il a sa part d'interprétation et heureusement, c'est lui qui fait le spectacle. Parce que quand il n'y en a pas de spectateur, il n'y en a pas de spectacle. Effectivement, il y a une écriture assez cadencée, même si on prend le temps de développer des histoires et on essaie d'aller au bout des choses. Il y a un rythme presque cinématographique, on est assez féru d'écriture cinématographique, on aime ça, mais on aime beaucoup la littérature, la peinture, on aime beaucoup de choses, hein. On est plutôt, je crois que ça se sent dans nos spectacles, on est plus proche de Gargantua que du Buteau, mais il y a quelque chose effectivement une sensation que un engrenage s'est mis en place et qu'il dépasse complètement les personnages, comme dans beaucoup de tragédies. Alors, c'est une écriture d'aujourd'hui et peut-être qu'elle nous correspond et que notre excès de générosité fait que ça... Mais que ça peut couper certaines choses. Mais je crois qu'après un spectacle, en tout cas, nous, on aime bien travailler là-dessus, c'est que ce sont des choses qui restent et qu'on continue à travailler et mûrir bien après. Ce n'est pas un temps qui est uniquement dédié à la représentation elle-même, mais que les émotions peuvent ressurgir un peu plus tard par les images, par le texte, par le corps, etc. Et on aime bien ça. On ne peut pas tout saisir. De toute façon, moi, souvent, quand j'ai tout compris du premier coup au spectacle, ça veut dire que je me suis un petit peu ennuyé et que ça va. Même nous, aujourd'hui, on est encore en train de travailler. On a répété encore hier pour essayer de faire avancer certaines choses. On a déjà joué 50 fois, ça ne fait rien. On va le jouer encore au moins 50 fois ou 80 fois, mais... On va continuer toujours à le travailler. Le samedi, on joue le cabaret. Ça fait 14 ans qu'on le joue. On va commencer avec une petite séance de répétition pour essayer de comprendre comment on peut aller plus loin. Et ce n'est pas que c'est linéaire. C'est que nous aussi, on évolue énormément et on a besoin de ce temps-là. Donc, le spectateur, je crois que c'est la même chose. Et puis, il y a des choses... On ne peut pas tout prendre. Et est-ce que c'est grave ?
Non.
Voilà, c'est ça. C'est la... Comment dire ? C'est vrai que moi, c'est moi qui fais la mise en scène de ce spectacle. C'est pas toujours les mêmes personnes qui font la mise en scène au Petit Théâtre de Perm, parce qu'on est une troupe permanente. Il y en a plus beaucoup, donc on le revendique suffisamment. Parce qu'on croit à ce type d'aventure qui est à la fois archaïque et, je crois, très contemporaine. Mais pas que dans le théâtre, un peu dans la vie en général. Qu'il est temps qu'on revienne à ce genre d'aventure humaine, on va dire, et de replacer l'humain dans l'aventure. Tout ça pour dire que moi, quand j'ai fait cette mise en scène-là, j'ai pensé au repas de famille. C'est comme ça qu'on imagine aussi le théâtre populaire. C'est-à-dire c'est le repas de famille, ça commence avec un apéro. Il y a des petits toasts, après il y a la soupe, après il y a l'entrée, la deuxième entrée, le poisson, la viande, le fromage, le dessert, le pousse-café, le café. Et après, on recommence l'apéro. Et il y a quelque chose de cet ordre-là. Évidemment qu'on n'est pas obligé de tout manger, mais ce n'est pas grave. On a vécu un moment, on a vécu. Voilà. Et on espère que les gens... ont vécu après avoir... Qu'importe s'ils ont aimé ou pas, ça leur appartient et ça ne nous regarde pas à la limite. Mais est-ce qu'on a vécu ensemble ? Est-ce qu'on a fait... On a éprouvé certaines choses ensemble. Voilà.
Tito, c'est à toi.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. De toute façon, par exemple, moi, à la sortie, moi, j'étais assez content du spectacle, etc. Mais on m'a demandé qu'est-ce que t'en penses. Moi, j'en pense rien, en fait, parce que c'est le genre de truc, pour être très honnête, qu'il faut dormir là-dessus pour après savoir ce qu'on peut dire. D'ailleurs, Christopher était avec moi, il me disait, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire demain ? J'ai dit, mais tu verras, demain matin, il y aura plein de choses à dire parce que on aura dormi là-dessus. Mais c'est même pas réfléchir, c'est dormir dessus. Oui. Et les choses viennent. Mais en tout cas, il y a un grand bonheur pendant tout le spectacle et c'est ça qui est important. Moi, personnellement, je fais pas partie et je m'en félicite de ce qu'on appelle le spectateur bourgeois. Je n'ai pas envie d'aller voir des histoires que je connais ou qu'on parle des gens que je connais. Je m'en fous complètement des bourgeois ou des histoires d'amendes dans le placard, j'en ai rien à foutre. Par contre, quand on me parle de gens, des fois que je n'aime même pas particulièrement, hein, de personnages... Ça m'intéresse davantage. Il y a une sensation que l'auteur tape sur tout le monde, mais ne critique personne, en fait. Et je trouve ça très bien. Il y a une scène avec les pains cachés, là, mm-hmm. et puis la nana qui est toute seule avec ses lunettes. Et qui dit quelque chose que... Puis on réfléchit, on se dit, mais combien de fois j'ai pensé ça ? De quel droit tu me juges ? Moi, j'ai passé, je ne te juge pas, alors arrête de m'emmerder. Et c'est vraiment ça. Et surtout, les personnages, je les traite de cette façon-là. C'est-à-dire, ne jugeons pas. La nana, elle est là, elle a ses petites lunettes, elle a l'air un petit concon. Et alors ? Hein ? Et alors, le mec avec son chien, on n'a rien à foutre. Et voilà, ça pour le, disons l'ambiance du spectacle, et je trouve ça très très sain, très sain. Il n'y a pas de message à dire, regardez, il faut absolument, non, il y a rien à dire. Mais c'est un peu comme, parce que c'est une descente aux enfers, et c'est un peu comme Dante, il est dans l'enfer, et il porte pas vraiment de jugement. Des fois il le fait, mais si on finit la Divine Comédie, on n'a pas vraiment un jugement de valeur sur les personnages qu'on a rencontrés dans l'enfer et au purgatoire et même au paradis. On a plutôt une sensation d'avoir vu des choses, quoi, des appréciations. Et les gens ont le droit à la parole chez Dante. Et là aussi, je trouve que ça a un rapport direct avec ça. Après, juste pour l'anecdote, ça m'a fait penser à une très belle... ça va faire plaisir à Florent. une très belle nouvelle de Marcel Béalut.
Ah oui.
C'est l'histoire d'un métro qui part.
Un auteur un peu oublié, Marcel Béalut, mais qui mérite vraiment notre intérêt. Alors, on parlait de cinéma tout à l'heure. Moi, quand Tito m'a fait le résumé, a essayé de me faire le résumé un petit peu de ce qui se passait, moi, j'ai une vision de cinéma, ça m'a fait penser un peu à Buffet froid. Mmh. Buffet froid, donc, de Bertrand Blier, qui se passe, le début du film se passe dans le métro, d'ailleurs. Mmh. Est-ce que c'est erroné ou pas comme...
Non, mais on a énormément de références. On est allé... oui, bien sûr qu'on en a parlé. On a parlé aussi des films... d'Iñárritu, de cette mouvance-là, plus sud-américaine, qui travaille sur des allers-retours dans le temps. Une écriture un peu plus syncopée, qui n'est pas forcément en lien avec une linéarité de récit, mais plutôt quelque chose qui soit en lien avec une écriture un peu plus organique, on va dire. Mais on a parlé aussi beaucoup, évidemment... je dis évidemment, on a parlé beaucoup de Gabin, de Ventura... Mmh. Il y a quelque chose de tout ça là-dedans, qui est une façon d'appréhender l'acteur dans toute sa chair, dans toute son entièreté, parce que ça parle bien sûr de tout un tas d'injustices qui sont vécues de manière extrêmement violente, même si elles ne le sont pas a priori. Le chauffeur de métro qu'on veut juste changer de ligne, pour lui c'est une violence, la violence au travail. Des fois elle n'est pas que dans le licenciement, elle est aussi dans la réorganisation, dans l'évaluation, mmh. dans beaucoup de choses qui sont qu'on peut à un moment donné détruire, annihiler complètement l'histoire des gens et de ce qu'on en fait. Et des choses beaucoup plus violentes qui ne le sont pas vécues comme des choses violentes. Et donc ça parle aussi à travers tout ça, ça parle aussi d'hommes, de femmes, et on a essayé aussi de s'inspirer quelles sont les figures héroïques, parce que évidemment beaucoup prétendent que la mère ou la grand-mère du polar, ce sont les tragédies grecques, et on s'en est inspiré beaucoup. C'est comme ça qu'on est arrivé au punk à chien. Alors le détour est un peu compliqué, mais on cherchait le cœur. C'est quoi le cœur d'aujourd'hui? C'est dans les tragédies grecques, c'est souvent le cœur de femmes, de vieillards, de serviteurs, c'est-à-dire un espace social qui est à la fois dedans et dehors. Et aujourd'hui, c'est un peu, je trouve ça un peu limité, dépassé, et c'est souvent la question qui est ratée, je trouve, au théâtre, qui est la question du cœur. Ou alors elle est traitée de manière extrêmement hiératique, uniquement dans une image de ce qu'est le cœur. Mais le cœur, c'est la représentation du peuple sur scène, mais avec un regard légèrement distancié. Et donc, c'est comme ça que nous, on a travaillé sur les punks à chiens. On s'est dit, oui, voilà, les punks à chiens qui sont... nous, petits bourgeois, entre guillemets, qui sommes bien insérés dans l'espace social, regardons ça d'un air légèrement amusé. on ne prend pas au sérieux cette parole-là. Ces jeunes-là ne sont pas arrivés là par des sciences sociales. Ça a été un choix, à un moment donné, de se mettre en parenthèse, qui après rejoindront un univers peut-être petit bourgeois, etc., sauf s'ils se perdent en route, ce qui arrive. Donc, nous, ça nous faisait un joli cœur, surtout dans l'espace du métro, parce que le métro, c'est un endroit où on marche beaucoup, où on va vite, et eux sont assis, couchés, et regardent le monde. Donc, ça fait partie, c'est d'ailleurs une tirade importante, le monde, dans le spectacle. Voilà.
On va rappeler, sauf si tu as quelque chose à rajouter, ouais, Christopher.
Je voulais juste rajouter que, malgré tout, c'est une descente en enfer, mais à la fin, ça finit quand même par une légère touche d'espoir.
Oui, mais c'est-à-dire qu'effectivement, on n'avait pas envie que les gens se suicident à la fin du spectacle. Mais je ne sais pas si c'est de l'espoir, après ça c'est une interprétation, mais en tout cas, c'est une force et une rage de vie, ça c'est sûr.
Est-ce qu'atterrir dans l'endroit le plus laid de l'Europe, la ville la plus pourrie de toute l'Europe,
c'est un message d'espoir.
Ils sont heureux.
Mais disons que dans les fêtes, peut-être pas, mais dans les personnes, oui, et dans la façon dont ils le vivent, oui, et que peut-être que l'on rêve, que si petit, si absurde, si abstrait soit-il, ne serait-ce qu'en. Si on les accepte, si on les accepte peut-être avec légèreté, ce qui peut entraîner des choses extrêmement graves, on devrait juste dire excusez-moi, je prends la tangente. Je m'en fous, c'est la crise, c'est le machin, c'est ceci, c'est horrible, tout ce qui se passe, c'est horrible. Je ne suis pas d'accord et je le prends avec une telle légèreté que ça me donne une patate, une force, une furieuse envie d'exister. Ça, on avait vraiment envie que ce soit communicable, ne serait-ce qu'en souvenir de tout un genre, le tant de gens qu'on a rencontrés. Mais moi, je me souviens très bien de la Birmanie, de ces gens qui travaillaient là-bas au quotidien, qui flippait de ne pas être assassiné par les militaires. Et il me recevait avec un sourire à toute épreuve qui me disait que je n'avais pas le droit, moi, non plus, de me laisser aller dans mes états d'âme. Mais moi, il fallait que je fasse mon boulot. Et avec la pêche, la banane, même si ce que j'y ai vu était l'enfer sur Terre, dans un paysage magnifique. Dans un paysage magnifique.
On va rappeler que le spectacle s'appelle Le Siphon, c'est au théâtre Jean Villard ce soir, c'est à 20h et toute l'équipe est ressortie très contente, avec des divergences d'opinion aussi sur la fin du spectacle. Merci de nous avoir accompagnés pour ce premier plateau.
Avec plaisir.
On va se quitter avec quelqu'un que j'aime bien, avec la voix de quelqu'un que j'aime bien, qui s'appelle William Burroughs, et oui, le poète de la Beat Generation, et qui est en train de réciter un extrait de l'opéra de Katsu. C'est un enregistrement qui date d'une vingtaine d'années.
And now, the ballad of the question. What keeps mankind alive? You gentlemen who think you have a mission to purge us of the seven deadly sins should first sort out the basic food position, then start your preaching. That's where it all begins. You lot who preach restraint and watch your waist as well should learn for once the way the world is run. However much you twist, or whatever lies you tell. Food is the first thing. Morals follow on. So first be sure that those who are now starving get proper helpings when we all start carving. What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? The fact that millions are daily tortured, starved, silenced, and oppressed. Mankind can keep alive thanks to his aptitude
for keeping his humanity repressed. And now, for once, you must try to face the facts. Mankind is kept alive by bestial acts. And for once, you must try to face the facts. Mankind is kept alive by bestial acts.
Nouvelle vague de violence cette nuit à Los Angeles.
Si vous aviez le pouvoir de changer le monde, qu'est-ce que vous changeriez ?
Quand on aborde le problème de la solitude dans notre société actuelle, on se retrouve immédiatement devant une montagne de questions.
93.9.
Divergence FM.
La viande est un aliment important. Il faut en manger aux trois repas, matin, midi et soir. Une alimentation équilibrée. Au petit déjeuner, une ou deux tranches de bacon, des saucisses, des choses comme ça. Au déjeuner, un hamburger, une côte de porc fera l'affaire. Et pour le dîner...
Pourquoi on ne peut plus voir ?
Nous interrompons nos émissions pour un communiqué spécial de la Maison Blanche à Washington.
Divergence FM, le 93.9, avec nos jingles maison, nos célèbres jingles maison. Vous êtes toujours dans l'émission Vendredi Théâtre, l'émission qui explore l'actualité théâtrale. Et nous avons un deuxième plateau avec un spectacle qui se joue au Carré Rondelet, Hannah Arendt, Exil Atlantique. J'ai le plaisir, le bonheur et l'avantage de recevoir Monsieur Avner Pérez. Bonjour.
Bonjour.
Théodora Carla. Bonjour. Bonjour. Et Stéphane Linhart.
Linhart,
voilà. Alors, Hannah Arendt, est-ce qu'on peut dire que c'est une philosophe ? Parce que je crois qu'elle n'appréciait pas trop...
Oui, cette appellation, oui. On disait plutôt qu'elle était chercheuse, disons, en sciences politiques, mais pas véritablement philosophe, oui. Cela dit, nous pensons tous qu'elle l'est. Hein.
Bien sûr. Alors, Monsieur Pérez, d'habitude, je vous reçois plutôt en tant que directeur du Carré Rondelet. Là, je vous reçois en tant qu'auteur et metteur en scène de ce spectacle. Alors, on accompagne donc Hannah Arendt, on est en 1941 à Lisbonne.
Oui, c'est ça. Ça se déroule en janvier 41, dans un cadre, disons, très particulier, puisqu'il s'agit au fond de la période où le Portugal a accepté, disons, d'accueillir un certain nombre de réfugiés qui venaient souvent de France, mais aussi d'autres pays. Et Hannah Arendt, donc, venait de s'échapper, en quelque sorte, du camp de Gurs en France. Et elle a pu, par toute une série de circonstances où on lui a délivré des papiers, enfin l'agence américaine lui avait délivré des papiers l'autorisant à avoir un visa. Et c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée effectivement 3 mois à Lisbonne. Alors cet épisode en fait n'est pas très connu. L'écriture de cette pièce a été faite au Portugal lui-même, où j'ai séjourné. Et dans ce contexte-là, j'ai essayé de trouver un certain nombre d'informations. Alors je dois dire qu'elles sont très maigres. Il y a quelques incidences dans le journal de Diario de Noticias qui avait quelques lignes que j'ai retrouvées où on indiquait la présence de certains réfugiés célèbres. Alors il faut dire qu'à cette époque, donc, il y avait un passage à la fois de réfugiés, communs, et puis de réfugiés qui étaient des intellectuels, des peintres, des philosophes, etc. Il y a eu Alma Mahler.
Il y a eu Brecht,
il y a eu Chagall.
Chagall, oui.
Bon, donc il y avait tout un milieu absolument, disons que c'était la crème de l'intelligentsia européenne.
Qui s'est retrouvée, donc, puisque c'était la plaque tournante, pour partir aux États-Unis.
Voilà, et bon, on l'avait évoqué déjà la dernière fois, en fait le Portugal... peut-être pour être agréable à l'Angleterre, permettait ce séjour des réfugiés, puisqu'au fond, bon, dans toute l'Europe, ils étaient bannis, rejetés, et en quelque sorte un peu maudits, on le dit dans la pièce.
Oui, bien sûr, mais surtout en France, où ils étaient mis dans des camps.
Voilà, alors dans le camp de Gurs, ce n'était pas encore, bien entendu, les camps de la mort, mais elle est partie, on peut dire, quasiment au bon moment, parce que quelques semaines plus tard, Plus de 50% des réfugiés du camp de Gurs se sont ont été déportés pour aller plus tard dans les camps de la mort.
Oui, parce que le gouvernement de Vichy a donné, en fait, les réfugiés qui étaient dans les camps, a donné aux autorités allemandes.
Oui, absolument, absolument. On sait que Vichy a fait de l'excès de zèle. Et ils voulaient être donc plus royalistes que le roi. Et ils ont en effet dénoncé, regroupé, déporté. Bon, on connaît l'histoire.
Voilà. Et donc au début de la pièce, on voit donc Hannah Arendt avec sa petite valise. Et dans sa petite valise, il y a un manuscrit de Walter Benjamin.
Oui. Alors Walter Benjamin était son ami. D'ailleurs, elle a connu son mari chez Walter Benjamin, Henri Blücher, pardon.
Elle a écrit un essai sur Benjamin, si
absolument,
je me trompe pas.
Absolument, c'est un texte qu'on retrouve dans une série de portraits qu'elle a fait. Donc, et effectivement, c'était un grand ami à elle. Elle avait une tendresse, une véritable affection pour lui. Et c'était donc dans le séjour, enfin, au moment du séjour en France qu'elle a rencontré Benjamin, qui lui-même l'a fait rencontrer, disons, un certain nombre d'intellectuels français, notamment Sartre, Camus, également Raymond Aron. Raymond Aron, oui, qui a beaucoup compté aussi dans sa théorie générale, disons, et surtout sa remise en question du totalitarisme stalinien.
Et d'après ce que j'ai su, parce que j'ai un petit peu regardé dans mes sources historiques, c'est en 1940 qu'elle a rencontré à nouveau Benjamin à Marseille. Et c'est à ce moment-là qu'il lui a filé un certain nombre de manuscrits.
Absolument, oui. On l'évoque au tout début de la pièce. La pièce démarre là-dessus, démarre sur les manuscrits de Walter Benjamin. Oui, il lui a confié le manuscrit de réflexion qu'il avait élaboré autour de la notion d'histoire. Et ce manuscrit, elle a lu pendant le séjour et pendant le voyage donc aux États-Unis. Et ensuite, bien entendu, elle l'a protégé, elle a contribué à le publier plus tard.
On va rappeler que Walter Benjamin, lui, s'est suicidé à Portbou en 1941.
Oui. Alors, il y a des controverses cette histoire-là, parce qu'on pense qu'il a été ou poussé à bout ou véritablement arrêté. On ne sait pas trop. En tout cas, oui, il ne supportait plus cette situation. Il est arrivé à la frontière espagnole. Il pensait qu'il allait être pris par les autorités espagnoles. Et en définitive, quelques jours plus tard, ses amis ont pu passer la frontière, aller au Portugal.
Oui, parce qu'il y avait une directive qui n'a pas été appliquée du gouvernement espagnol, comme quoi il devait repousser les immigrés vers la frontière,
voilà,
et
ça, oui,
la frontière française, où ils auraient été donnés.
Oui. Mais disons que bon, ils jouaient un petit peu quelquefois. Enfin, ils en laissaient passer un certain nombre et quelquefois ils arrêtaient l'immigration.
Alors, je vais me tourner maintenant vers les comédiens. Alors, Théodora, donc vous jouez donc Hannah Arendt.
Oui, tout à fait.
Et vous jouez un journaliste, un personnage très ambigu quand même.
Ambigu, oui, on ne sait pas très bien exactement quel rôle joue ce José Pedro qui accueille Hannah Arendt. Est-ce qu'il travaille véritablement pour aider les réfugiés? Est-ce qu'il travaille en sous-main avec les autorités? Est-ce qu'il n'est pas un agent double auprès des nazis? Ce n'est pas très bien défini. Mais il y a une chose en tout cas, je pense, qui apparaît clairement, c'est qu'il est profondément atteint et touché par cette rencontre avec Hannah Arendt.
Et en fait, on ne sait pas très bien, parce qu'il est journaliste, mais il l'aide à avoir des papiers, à tamponner des papiers, donc il a une certaine autorité vis-à-vis du régime.
Il a des amis dans les services.
Voilà, qui n'est pas très bien défini. D'ailleurs, ses propos même sont très souvent assez ambigus. On sent qu'il a une attirance très forte vis-à-vis d'Hannah Arendt, qu'il essaye un petit peu de la bousculer aussi, qu'il joue un petit peu sur le pouvoir qu'il a. Donc il est toujours un peu entre deux eaux.
Sauf à la fin, je crois, où effectivement, on peut imaginer que, vu sa situation, bon, tout d'abord, c'est un nihiliste, c'est quelqu'un qui ne croit plus en rien, qui boit beaucoup. Et donc, on peut imaginer qu'il accueille comme ça assez régulièrement des réfugiés. Et je pense que quand elles sont jeunes et jolies, ma foi, eh bien, il doit y trouver des compensations certaines aux paperasses. Et évidemment, Hannah Arendt, ce n'est pas n'importe qui. Donc, il va dans un premier temps, effectivement, la bousculer un peu, en pensant très cavalièrement que, ma foi, vu la position de fragilité dans laquelle elle doit être, ça devrait se faire d'un claquement de doigts et qu'il va pouvoir se la mettre dans la poche. Et ça ne se passe pas du tout comme
pas
ça.
Pas du tout.
Évidemment, d'autre part, il a à cœur, je crois, de lui montrer que Il a lui-même, c'est un homme cultivé, c'est un homme qui connaît les textes, qui a lu beaucoup, et donc lui montrer à tout prix qu'il est aussi, d'une certaine manière, à son niveau intellectuellement, même si c'est une illusion. Mais bon, d'un autre côté, il a le vocabulaire, il a les connaissances. Et puis dans un deuxième temps, comme il a vu qu'en essayant de la brusquer un peu cavalièrement, ça n'a pas fonctionné, dans un deuxième temps, il va la retrouver à l'église de Lassé, où là, il va chercher à la séduire. Et ça ne marche toujours pas. Mmh. Et en troisième temps, eh bien là, il va véritablement se décomposer, se mettre à nu et lui offrir son cœur et sa vie sur un plateau sans plus rien chercher à fanfaronner autour.
Hannah Arendt, c'est quand même un personnage très fort dans la pièce. Parce qu'elle est dans une situation où elle pourrait être vraiment dans une détresse extrême et elle est toujours là, en train de dire non.
C'est vrai, elle reste fidèle, je pense, à sa ligne de vie et de conduite, puisque tout au début de la pièce, il y a un dialogue un petit peu surréaliste avec son mari, Heinrich Blüchner. Et donc, je pense que peut-être à un moment donné, elle va être un petit peu sensible à ce qui se passe entre le journaliste et elle, du moins à l'évolution de... du personnage du journaliste, mais ceci dit, elle reste toujours fidèle à ce qu'elle est.
Et lucide aussi, parce qu'elle est toujours lucide. En train de se méfier de lui, en train de se demander qui c'est ce type-là, est-ce que c'est un agent, est-ce que c'est pas un agent, quel rôle joue-t-il, toujours assez méfiante et toujours très forte.
Oui, c'est vrai.
Est-ce qu'on pourrait avoir un petit extrait de la pièce, si cela vous chante?
Oui, on peut... la première fois où ils se rencontrent, hein, peut-être c'est...
Bonjour, je viens pour le cachet, pour le tampon là sur le laissez-passer.
Oui, entrez, je vous en prie.
Arendt, réfugiée allemande.
Oui, monsieur Miranda m'en a parlé. Entrez, je sais qui vous êtes. José Pedro de Azevedo, journaliste au littéraire du Tage, à votre service et au service de tous les réfugiés.
Monsieur Miranda m'a dit que vous pouviez accélérer.
Ah, je peux si je sais tout. Asseyez-vous. Monsieur Miranda a toute ma confiance. Vous savez, il était recteur d'une de nos grandes universités.
J'ai vu bien des recteurs humanistes, chrétiens même, devenir de petits fureurs.
Ah, et avez-vous entretenu des rapports suivis avec certains d'entre eux? Avec l'un d'entre eux, un certain Heidegger?
J'ai suivi nos temps sombres et pleuré mes haines. Que dire de plus? La révolte ne peut se loger dans ce que vous appelez la relation. Mes rapports, mes relations. Il est difficile, dans des temps difficiles, obscurs, de s'alanguir dans la dérive des sentiments. Le sentiment ne se conçoit pas. Il pleure.
Merci, bravo, parce que je sais que ça n'est pas très facile de passer du plateau au micro en direct. Merci. Je vais me tourner maintenant vers Tito, qui est portugais, donc qui pourrait peut-être nous dire quelque chose sur le Portugal en 1941.
Moi, c'est surtout... ça me laisse rêveur, parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas bizarrement au Portugal, beaucoup de cette chose qui s'est passée pendant la guerre. D'abord parce qu'on parle rarement de Salazar au Portugal, de la dictature. C'est une blessure qui est restée chez les gens jusqu'à ma génération. Et puis les suivantes, ils avaient trop envie d'être heureux parce que ce n'était pas qu'une dictature, c'était aussi une profonde misère. Donc même les gens qui n'étaient pas concernés politiquement avaient envie enfin d'être heureux. Et donc, c'est un pays où on parle peu de ce qui s'est passé. Mais moi, à mesure que les informations m'arrivent, moi, je pense à tout ce qu'on a perdu aussi, hein, avec cette opportunité unique d'avoir des gens qui seraient restés. Parce que, figurez-vous qu'il y en a qui sont restés, mais pas les grands, pas les gens très connus, parce qu'évidemment, le régime ne voulait pas d'eux. Mais il y a des gens qui n'étaient pas connus et qui sont restés. Je me souviens d'un Espagnol, Segundo Garrard, un grand musicien. Il y a deux grands dramaturges allemands. Un grand homme de théâtre, un metteur en scène aussi allemand. Il y a comme ça, si on regarde dans les intellectuels des années 60, on va trouver comme ça tout d'un coup un nom allemand, un nom tchèque, juste, mais ce n'étaient pas des gens très connus, justement, quand ils sont arrivés. Et donc, eux, ils ont pu faire. Alors, imaginons si Brecht avait eu l'opportunité de rester. Moi, ça me laisse rêveur. Et ça me laisse rêveur d'autant plus que ces gens-là aussi ont choisi de rester parce que il n'y avait pas ce sentiment d'antisémitisme. Et donc, du coup, beaucoup de juifs ont dit « pourquoi pas le Portugal ?». Il y a de très beaux témoignages recueillis par Arte il y a quelques années où tous disaient ça. Pourquoi vous êtes restés? Ils ont dit « pourquoi pas le Portugal ?». Parce que, justement, les gens ne les regardaient pas comme juifs, mais comme des personnes. Et après, attention, le Salazar, qui était une saloperie totale, évidemment, il ne les a pas acceptés par bonté de cœur. Hein. Et il a tout fait pour éviter qu'ils viennent. Et il a fait de très mauvais coups à ces gens-là. C'était pas une partie de plaisir d'être au Portugal en attendant le bateau, parce que tout un tas de gens, c'était de la torture chinoise, très Salazar, parce que Salazar, c'était pas une dictature où on défilait militaire, des choses comme ça. C'était ce qu'on appelle la torture chinoise, le petit truc, la petite méchanceté qu'on vous fait comme ça un beau jour. Et là, ces réfugiés ont vécu ça quotidiennement, les petites méchancetés, les petits trucs minables qu'on vous fait et qui vous font du mal. Voilà. C'est tout.
Merci pour cette intervention. Je vais signaler quand même que Théodora, non seulement vous jouez la comédie dans cette pièce, mais vous jouez du violon et vous chantez. Mm-hmm. On pourrait avoir un petit extrait de chant ?
Oui.
S'il vous plaît.
Donc c'est un chant en yiddish. Al-Yul-Yuli Nachtun-Rein Al-Yul-Yuli Nachtun-Wind In der Nacht und in dem Rein In der Nacht und in dem Wind Gehen Menschen auf die Wehen, Nasen hingerig wehend, ungeschlobene wehend, ungetriebene wehend, Ajuljuljuli Nacht und Rehen, Ajuljuljuli Nacht, Und Wind, Julienke, mein Kind, Julienke, mein Kind.
Merci, bravo, c'était très beau, c'était très très beau. On va rappeler que le spectacle s'appelle Hannah Arendt, Exil Atlantique. C'est au Carré Rondelet, c'est à 20h30, donc c'est jusqu'au 23 et après c'est repris du 28 au 30 mars. Je ne me suis pas trompé.
Absolument.
Merci à vous tous de nous avoir accompagnés pour ce deuxième plateau. Et on parlait de Brecht tout à l'heure, Brecht qui a été à Lisbonne à la même époque. Et bien on va se quitter avec la voix de Brecht, avec un extrait donc, de l'opéra de Katsu.
Trägt im Gesicht und mächtig hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. An dem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand und ein Mensch geht um die Ecke. Den man mächtig Messer nennt. Und Schmulmeier bleibt verschwunden und so mancher reiche Mann. Und sein Geld hat mächtig Messer, den man nicht beweisen kann. Jenny Tauler Paar gefunden, mit nem Messer in der Brust. Und am Kai geht mit dem Messer, der von allem nicht gewusst. Und das große Feuer in Soho, sieben Kinder und ein Kreis. In der Menge Mäcki Messer, den man nicht fragt und der nicht weiß. Und die minderjährige Witwe, deren Namen jeder weiß, wachte auf und war geschändet. Mäcki, welches war dein Preis? Wachte auf und war geschändet. Mäcki, welches war dein Preis?
Je fais de la divergence mentale. Je me trouve actuellement sur la planète Ogo. J'appartiens à une élite intellectuelle qui se prépare à éliminer les hordes barbares qui ont envahi Pluton. Pourtant, bien que tout soit totalement convaincant, et même si cela me semble réel en tout point, le fait est que Ogo est une élaboration de mon mental. Je suis mentalement divergent. De cette manière, j'échappe à certaines réalités innommables qui me rendent la vie impossible ici. Quand je cesserai d'aller là-bas, je serai guéri. Est-ce que toi aussi tu es divergent, frère ?
Divergence FM, le 93.9. Et nous abordons tout de suite le dernier plateau de ce vendredi théâtre avec une pièce, un classique qui se déroule au théâtre Pierre Tabar. Pierre Tabar qui sont décidément des habitués de nos plateaux. Il s'agit d'Antigone de Sophocle. Alors je vais laisser les comédiens se présenter parce que je n'ai pas noté exactement tous les noms. Alors présentez-vous.
Ben, moi, je m'appelle Arthur Clos et je suis, on va dire, comédien, donc, et je sais pas exactement qu'est-ce que je
pourrais dire. Vous jouez quel rôle ?
Ben, je joue le rôle, alors, c'est un peu compliqué, c'est à la fois le cœur, le coryphée, le conseiller du roi, le fou du roi même un peu, et aussi un certain côté narrateur. Voilà.
Voilà. Quentin.
Alors, Quentin Gracias, comédien et aussi régisseur au théâtre Pierre Tabar. Et dans Antigone, je joue le rôle de Tirésias, du garde et démon.
Et Lily Sagitte, comédienne, qui joue Antigone.
Et nous avons le plaisir d'avoir Antigone elle-même pour ce dernier plateau. Alors, il s'agit donc de l'Antigone de Sophocle. Je rappelle que des Antigones, il y en a eu pas mal. Il y a eu celle de Sophocle, il y a eu Cocteau, il y a eu Jean Anneau, il y a eu Bertolt Brecht, qu'on vient d'entendre. Et pourquoi avoir choisi ce Antigone-là plutôt que... Hoffmannsthal aussi. Pourquoi être revenu aux sources et pas avoir adapté plutôt une pièce plus contemporaine ?
Alors c'est que Damien voulait, Damien donc Goudet, la metteuse en scène, voulait travailler sur un Antigone qui vraiment vraiment antique et sur de quelque chose de très épuré, et elle a la chance de connaître le traducteur Philippe Brunet qui a fait une nouvelle traduction d'Antigone de Sophocle. Dont dans la traduction, je l'ai ressenti comme ça, donne quelque chose de peut-être pas de moderne, mais un phrasé qui est plus abordable pour la plupart des personnes qui viennent voir cette pièce.
Qui convient parfaitement au théâtre.
Oui. Et
c'est vrai qu'on a eu par le passé des traductions qui étaient trop littéraires et qui finissaient par devenir casse-pieds parce qu'elles ne correspondaient pas au langage théâtral.
Voilà, c'est que lors du travail, on n'a pas voulu travailler sur une heure vingt à 1h30 de déclamation de texte en regardant, en ayant le regard en l'air et juste en sortant ce texte qui est magnifique. Et on voulait trouver quelque chose d'un peu plus chaleureux, même si cette pièce ne déborde pas de joie et de bonheur, hein, mais quelque chose d'un peu plus chaud.
On va peut-être commencer, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire d'Antigone, par résumer un petit peu le propos, de quoi il s'agit. Qui veut résumer? Ou alors je peux m'y coller, si vous voulez.
Bon, mais je vais tenter.
Allez-y.
Alors, comment dire, ben Antigone...
Bien devant le micro, s'il vous plaît.
Alors, ben, Antigone, c'est ce qu'on peut appeler une princesse, avec un roi Créon. Ça se passe dans l'Antiquité grecque, et dans la Grèce antique même.
À Thèbes.
Alors, il y a énormément de mythes avec Thèbes, et ça, c'est l'histoire d'Antigone, en fait, là où les deux frères d'Antigone vont être tués dans une guerre, en s'affrontant l'un contre l'autre. Et le roi du pays, pour affirmer son pouvoir, on va dire, va choisir que l'un des deux fils sera enterré et exhumé avec les sacrements religieux et tutti quanti, et alors que l'autre serait justement... Il décide de laisser sa dépouille...
Aux chiens et aux oiseaux.
Ce qui fait qu'Antigone va vouloir... Alors très rapidement, hein, Antigone va vouloir enterrer le cadavre. Le roi ne va pas être d'accord, il va donc vouloir tuer Antigone, ce qui va faire que le fiancé d'Antigone, qui est le fils du roi, il se trouve, ben, va finir par se suicider en même temps que Antigone et que peut-être d'autres personnes aussi. Mais...
On va rappeler quand même que Antigone et ses frères, ce sont les enfants d'Œdipe, donc une sacrée famille. Et Créon, c'est donc le frère de Jocaste qui a été à la fois l'épouse et la mère de Œdipe.
Oui, c'est un peu tout le monde dans le même panier dans ce genre
d'histoire. Famille, tuyau,
poil, quoi. C'est ça.
Alors, toute l'équipe l'a vu, cette Antigone. Tito, tiens.
Ah, c'est drôle parce que j'étais en train de... Il y a une idée qui m'est venue, je vais la raconter après. L'histoire, en fait, c'est une question, c'est une réflexion, entre autres, sur le pouvoir et sur la démocratie, sur la... Surtout pas sur la démocratie elle-même, mais sur ce que c'est que le pouvoir et où jusqu'il peut aller le pouvoir. Et voilà la phrase qui m'est venue comme ça pendant que j'écoutais à côté. C'est Louis XIV à qui on demande et on dit mais je ne sais plus quoi ce qu'il fallait faire. Et puis il dit mais ça je ne peux pas le faire. Et puis on lui dit, mais enfin, vous êtes le roi. Et l'autre dit, un roi obéit aux lois, même si c'est lui qui fait les lois. Le roi obéit aux lois, sinon c'est un tyran. C'est-à-dire, une fois qu'il a fait les lois, il faut s'y tenir. Et c'est toute la réflexion politique d'Antigone. C'est-à-dire, est-ce qu'il a le droit d'aller contre les lois, même si à la limite, c'est lui qui fait les lois. Aussi, après, il y a la dimension... divine, évidemment dans le contexte grec, donc les lois ne viennent pas des hommes mais sont d'inspiration divine, et donc mais aussi chez Louis XIV aussi, hein, puisqu'il était inspiré par Dieu quand il gouvernait, et donc c'est toute cette ça c'est l'aspect politique. Après il y a l'aspect humain évidemment, et je voulais dire que ça c'est très bien rendu parce que j'ai adoré le côté bout de ficelle du décor qui est très réussi. Il n'y a pas de gaspillage de moyens. C'est pas un théâtre national, ni un théâtre municipal. Et donc, il n'y a pas des grandes machineries, des machins. Mais ça fonctionne très bien. Donc, ça, c'est. Et du coup, on fait attention aux personnages, à ce qu'ils ont à dire. C'est très, très bien. J'ai adoré la fin. Je trouve que c'est extrêmement tragique et très réussi. Et c'est difficile à faire. Et tant pis, je vais le dire. À 13 ans, on avait vu une Antigone qui était un désastre absolument total avec des machineries énormes.
Avec des moyens gigantesques.
Moyens gigantesques, avec des chants en occitan pour faire plaisir au public. Je me souviens de la scène où on lui annonce, le mec, il vient de voir que son fils s'est tué et que sa femme s'est suicidée. Et tout ce qu'il trouve à faire, c'est s'asseoir. Moi, j'ai pensé, le mec, il a dû se penser, ça me trouve le cul. C'est le truc nul, nul, nul. Et donc, tous les effets tombent bien. Vraiment, c'est une très bonne mise en scène. Vous êtes formidables. Et le passage du comique au tragique est bien fait. Mais ça peut être aussi parce que vous jouez plusieurs rôles. Et ça doit aider un peu à ça. C'est-à-dire que comme vous êtes obligé de passer d'un personnage à l'autre, ça c'est une question que je vous pose, peut-être que le moment où apparaît le comique, parce que c'est vous tout seul qui amenez le comique dans le truc, et que vous savez que 2 minutes après, il faut que vous jouiez un personnage tragique, oui, est-ce que ça ne fait pas qu'il y a un équilibre justement dans... Parce qu'il y a un équilibre parfait là-dedans.
Oui, ce qu'on avait décidé, ayant lu donc la pièce, forcément, avant de l'avoir montée, que ce texte du garde qui vient annoncer à Créon que quelqu'un a recouvert le corps de Polynice de terre et donc a fait le rite funéraire, qu'on avait trouvé que ce garde était juste terriblement drôle, avec la peur qu'il a de venir... il risque de mourir à tout moment. Il vient quand même dire à son roi que quelqu'un l'a désobéi. On a pris le parti d'accentuer ce côté comique pour déjà alléger un petit peu la tension dramatique qu'il y a dans cette pièce, qui est quand même assez puissante, quoi. Et j'ai perdu ce que je voulais dire, mais c'était un parti pris d'avoir un garde qui va arriver, et que si les gens peuvent sourire lorsqu'il va parler, c'est mieux.
Et ça marche.
Ça marche. Bon, alors c'est bien.
Est-ce qu'il serait possible d'avoir un extrait de la pièce, si c'est possible ?
C'est possible.
Bien devant le micro.
Bien devant le micro. Donc je vais vous lire la première scène d'Antigone. Alors elle essaye de convaincre sa sœur d'enterrer son frère avec elle. Pour les funérailles de nos frères, Créon n'a-t-il pas fait à l'un l'honneur qu'à l'autre ? Il a refusé. Et Théocle, on dit qu'en bonne justice dans le sol, en agissant selon l'usage et selon le droit, il l'enfouit pour qu'il soit honoré par ceux d'en bas. Mais le corps de Polynice, l'iniquement défunt, il a, dit-on, proclamé l'ordre de ne pas le couvrir d'une sépulture, ni de le pleurer, mais de le livrer aux oiseaux, sans larmes, sans tombeau, un doux trésor à leurs yeux, promesse de festin. Tels sont les ordres que, dit-on, le vaillant Créon, pour toi, pour moi surtout, a fait clamer, et qui viennent jusqu'ici, vers ceux qui ne savent pas, retentir avec clarté et conduire nos actions, car ce n'est pas rien, et qui se rendra criminel, sera mis à mort, lapidé par le peuple dans la cité. Voilà ce qu'il en est. Tu montreras sous peu si tu es noble ou lâche, issu d'un noble sang.
Merci beaucoup pour ce petit extrait. Je vais me tourner vers Christopher qui n'est pas encore intervenu. Je te prête mon micro.
Merci. J'étais content de voir Antigone, parce que dans mon lointain souvenir, il me semble qu'Antigone, c'est la première pièce de théâtre que j'ai vue à un moment donné au collège, avec très peu de souvenirs. Je n'ai pas de point de comparaison, alors c'est bien tombé que la pièce était bien montée et que c'était très agréable. Je ne vais pas revenir sur ce que Tito a dit. C'est vrai que j'étais surpris de découvrir au milieu du tragique des aspects comiques qui surgissaient et qui étaient très bien faits. Je suis resté avec une question à la fin du spectacle. Ça finit par une tirade en grec. Qu'est-ce qu'il peut bien dire en grec ? Est-ce que vous le savez ?
Alors justement, oui, dans la traduction, dans le livre de Philippe Brunet, la traduction, c'est traduit, mais juste à côté, il y a le même texte écrit en grec. Et donc, on voulait implanter tout au long du spectacle, notamment sur, par exemple, le texte de Tirésias, des passages en grec ancien, donc. Et puis, le temps avançant, on s'est dit qu'on allait peut-être juste finir sur au moins finir avec quelques phrases en grec, que Arthur va peut-être lire.
Allez-y.
Je les
bien devant le micro.
Je les lis en grec ou...
En grec. On va se quitter avec le grec.
Ou en français. Non, en grec.
En grec et puis après en français.
Ok, bon. En grec, ça nous fait polo to phronein eu daimonios proton to hyper kein cre deta geisteus apoteisantes, megaloi, de logoi, megalas, plegas, gerato, phronein et didaxan.
Et en français, ça nous donne ?
Alors en français, ben, c'est un peu plus clair. C'est... ça nous dit « La raison est de loin le fondement premier du bonheur. Il faut toujours respecter les dieux. Les discours hautains apportent des coups aux orgueilleux. Leur châtiment, avec les ans, se mue en sagesse. »
Merci beaucoup. On va rappeler donc que le spectacle s'appelle Antigone de Sophocle, que ça joue à Pierre Tabar. Alors, il y a pas mal de dates. Donc, ça se joue au mois de mars, ça se joue au mois d'avril et au mois de mai. En mars, donc, ce soir, ça se joue pas. Et donc, il y aura le 24 à 17h, le 27, 28, 29, 30 à 19h, le 31 à 17h. En avril, ça sera le mercredi 3, le 4, le 5 et le 6 à 21h. Et au mois de mai, ça sera le samedi 18 à 14h et le dimanche 19 à 20h. Voilà. J'espère que je n'en ai pas oublié. Merci de nous avoir accompagnés pour ce troisième plateau. Allez voir Antigone parce que c'est un très beau spectacle. Et on va se quitter avec Jean Cocteau qui lui-même avait fait une Antigone, mais qui a fait aussi le livret d'Oedipus Rex, un oratorio de Stravinsky. On va se quitter avec la voix de Jean Cocteau et la musique de Stravinsky. Merci à tous et puis à la semaine prochaine pour un prochain Vendredi Théâtre. Au revoir.
Spectateurs, vous allez entendre une version latine d'Édipe au roi et voir des tableaux vivants qui ne correspondent pas aux paroles. Afin de vous épargner tout effort d'oreille et de mémoire, et comme l'opéra oratorio ne conserve des scènes qu'un certain aspect monumental, je vous rappellerai au fur et à mesure le drame de Sophocle. Sans le savoir, Édipe est aux prises avec les forces qui nous surveillent de l'autre côté de la mort. Elles lui tendent, depuis sa naissance, un piège que vous allez voir se fermer là. Voici le drame. Thèbes se démoralise. Après le sphinx, la peste. Le cœur supplie Édipe de sauver sa ville. Édipe a vaincu le sphinx. Il promet. Le tableau vivant représente l'arrivée de la peste, une nuit à Thèbes.